C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, était en visite à Moscou hier.
Oui, pour rencontrer Vladimir Poutine et discuter avec lui, entre autres, de l'avenir du Haut-Karabakh, récupéré par l'Azerbaïdjan en 2020 au terme de 44 jours sanglants et dont il faudrait désormais définir le statut. À l'époque, c'est Vladimir Poutine, allié d'Erevan, qui avait intercédé pour obtenir un cessez-le-feu. Depuis, il a ouvert le feu contre l'Ukraine et les images, les témoignages qui nous parviennent de cette guerre rappellent les atrocités commises dans le Haut-Karabakh. Alors, l'Arménie peut-être le faire comme si de rien n'était, l'appui de la Russie lui est-il à ce point indispensable qu'elle ne peut plus avoir avec Vladimir Poutine, quel différent que ce soit, et d'ailleurs quelles sont ses relations avec l'Ukraine. Bonjour Taline Termination.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes professeure d'histoire contemporaine de la Russie et du Caucase à l'INALCO, directrice de l'Observatoire des États post-soviétiques. Taline Termination, on sait les relations très fortes qu'entretiennent l'Arménie et la Russie, la première ayant bénéficié du soutien de la seconde pendant la guerre de l'automne 2020. On y reviendra. Pour autant, est-ce que des voix en Arménie se sont prononcées contre la guerre en Ukraine ?
Alors, contre la guerre en Ukraine, c'est le fait surtout de ces réfugiés qui viennent de Russie, qui se définissent comme hostiles à la politique de Poutine. Et il faut préciser tout de suite que Yerevan s'est en effet transformé en une sorte de refuge russe et s'est empli justement de ces personnes qui se définissent comme hostiles à la guerre et donc hostiles à l'intervention militaire en Ukraine.
Il y en a beaucoup, ils sont nombreux.
Il y en a beaucoup qui ont investi effectivement tous les hôtels et les logements locatifs de Yerevan. Cela dit, il n'y a pas non plus eu des manifestations de masse. Il y a eu ça et là quelques petites manifestations sporadiques plutôt clairsemées, je dois vous avouer, pour manifester cette volonté de paix et manifester bien sûr leur hostilité à l'intervention militaire russe en Ukraine. Mais évidemment, c'est pas du tout la tonalité générale, comme vous pouvez bien l'imaginer, car vous l'avez rappelé. Poutine, c'est dans le conflit qui opposait l'Arménie et l'Azerbaïdjan par rapport au Karabakh, donc s'est imposé comme un médiateur, et je dirais maintenant c'est tout à fait clair qu'il s'est imposé comme le seul médiateur. Et la Russie est apparue là non pas comme une puissance qui arrivait avec une volonté d'intervention militaire, ce que d'ailleurs les Arméniens ont peut-être regretté, mais c'est vraiment présenté sous la forme d'une force d'interposition en déployant dans le Karabakh l'équivalent des casques bleus russes, si vous voulez, donc des forces de maintien de la paix, sans la présence de laquelle il semble désormais avéré que l'Arménie serait en effet territorialement forte en danger aujourd'hui, car au-delà du Karabakh, la grande question, c'est la volonté des Turcs et des Azerbaïdjanais d'établir une jonction à travers le territoire de l'Arménie. Donc, pour répondre à votre question, les Russes sont perçus comme la seule garantie contre la réalisation de ce scénario cauchemardesque, évidemment, du point de vue d'Yerevan.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Arménie s'est rangée derrière la Russie, notamment en soutenant les séparatistes des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Ça veut dire quoi? Que pour l'Arménie, séparatiste du Donbass, séparatiste du Haut-Karabakh, c'est le même combat?
Non, alors là, il faut être clair. Le 23 février, c'est-à-dire à la veille de l'invasion russe en Ukraine et au lendemain de l'annonce par Poutine de la reconnaissance des républiques sécessionnistes de Donetsk et Lugansk, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères arménien a déclaré qu'une telle reconnaissance des républiques n'était absolument pas sur la table côté arménien. Donc en fait, il n'y a pas de soutien officiel de l'Arménie suite à la connaissance russe de ces deux entités. Mais je précise aussi que l'Arménie ne reconnaît pas non plus le Haut-Karabakh. Donc c'est une position purement diplomatique. En revanche, ce qu'il y a, c'est non pas un même combat, parce qu'en fait, on ne peut pas comparer les relations russo-ukrainiennes avec les relations arméno-azéries ou arméno-turques, si tant est d'ailleurs que ce concept existe, mais plutôt un certain mimétisme ou plutôt une certaine symétrie dans les deux situations qui mettent à chaque fois en jeu l'existence de quasi-États qui cherchent à exister en dehors de l'entité territoriale à laquelle ils se sont trouvés rattachés du fait des frontières héritées de l'époque soviétique. Et donc, ceci explique cela. Il y a aussi le fait que le gouvernement ukrainien a manifesté son soutien à l'Azerbaïdjan lors de la guerre des 44 jours et qu'il voit la question, que le gouvernement ukrainien regarde la question du Karabakh de manière mimétique et à l'aune de ses propres problèmes. C'est-à-dire, en fait, pour Kiev, le Karabakh, c'est comme la Crimée, c'est comme le Donbass et Lugansk, c'est-à-dire que ça signifie une perte de souveraineté. Donc là, c'est l'interprétation ukrainienne des questions caucasiennes. Et puis, à partir de là, évidemment, on a une attitude qui se déploie, compte tenu, bien sûr, du positionnement favorable de l'Ukraine par rapport à l'OTAN et par rapport à la principale puissance régionale de l'OTAN, c'est-à-dire la Turquie. Et à partir de ce moment-là, tout devient clair. L'Ukraine donc a manifesté son soutien à l'Azerbaïdjan et voit toutes les entités autoproclamées ou annexées à l'aune de ses propres problèmes. Donc c'est ça explique évidemment des positionnements diamétralement opposé. Cependant, je dois préciser un autre son de cloche du côté des autorités arméniennes du Haut-Karabakh, ce qui est différent. Hein. C'est pas que ça n'a rien à voir, mais il y a quand même des nuances d'importance. Et là, les autorités arméniennes du Haut-Karabakh, oui, celles-ci ont salué la reconnaissance par la Russie de Donetsk et de Lugansk. Donc là, traditionnellement, d'ailleurs, il y a davantage une politique pro-russe du côté de Stepan Aguel. Donc là, cette reconnaissance a eu lieu.
Il serait caricatural de dire qu'il y a en Arménie un sentiment ukrainien, n'empêche que des rumeurs circulent selon lesquelles les Ukrainiens auraient livré des bombes au phosphore à l'Azerbaïdjan pendant la guerre dans le Haut-Karabakh. Les Ukrainiens nient, en tout cas, peut-être en deux mots, rappeler, Taline Termenassian, qu'il y a une diaspora arménienne en Ukraine et que oui, ça compte aussi.
Bien sûr, avant ça, je voudrais revenir sur cette histoire de bombes au phosphore, cette rumeur persistante, non vérifiée et non vérifiable en vérité, parce qu'elle a été soigneusement, bien sûr, déniée par le gouvernement ukrainien. C'était une rumeur selon laquelle l'Ukraine aurait livré des bombes au phosphore à l'Azerbaïdjan qui en a fait l'usage avéré durant la guerre de 44 jours. Nous en avons les preuves avec, malheureusement, les grands brûlés qui se trouvent à l'hôpital de Yerevan.
On a aussi vu des très grands brûlés en Ukraine sous les bombes de la Russie.
Voilà, donc il y a en revanche un lien très fort entre ces questions d'armement qui sont déployées aujourd'hui dans la guerre ukrainienne, mais qui en fait ont déjà premièrement été utilisés dans la guerre du Haut-Karabakh, en particulier ces célèbres, malheureusement célèbres drones Bayraktar TB2 dont on a vu les ravages dans la guerre du Haut-Karabakh et qui sont de nouveau déployés par les Ukrainiens dans la guerre qu'ils mènent contre l'invasion russe. Ces drones sont fabriqués, vous le savez, par l'entreprise turque Baykar et intègrent des moteurs d'un certain type AI-450 que la Turquie achète à l'Ukraine, car ces moteurs sont ou étaient fabriqués à l'usine Ivchenko Progress, qui est basée à Zaporozhye. Donc ça vous donne un petit peu le déroulé des enjeux ukraino-caucasiens.
Donc un tout petit mot sur la diaspora arménienne.
Alors la diaspora, elle existe bien sûr. Il y a des Arméniens en Ukraine. C'est une diaspora qui a des âges différents, très ancienne en réalité, puisqu'il y avait des colonies arméniennes depuis le Moyen-Âge cette partie qui est devenue l'Ukraine aujourd'hui. Ce serait évidemment très long de le développer. Ces colonies se sont développées aussi à l'époque moderne, en particulier en Crimée. Et enfin, cette diaspora a existé bien sûr dans le cadre pan-symbiotique, parce que les Arméniens allaient soit travailler en Ukraine, soit faire leur médecine, faire leurs études en Ukraine, etc. Et puis enfin, cette diaspora s'est ensuite renforcée au moment de la chute de l'URSS, toujours dans un cadre de migration. L'Arménie est un pays pauvre et les Arméniens avaient tendance à migrer pour aller chercher de l'emploi en Ukraine. Ce qui fait que donc il y avait à peu près 100 000 personnes en 2001, répartis un peu sur tous les oblasts de l'Ukraine, mais en particulier, donc les plus grosses parties se trouvaient à Kharkiv, Kiev, Dnipropetrovsk, etc. Enfin bon, on n'a pas le temps de développer, voilà. Mais il y a des Arméniens un peu partout en Ukraine.
Et aujourd'hui, il y a des Ukrainiens en Arménie, en tout cas pour l'instant, le gouvernement donne le chiffre officiel de 6000 réfugiés ukrainiens en Arménie, en tout cas c'était il y a un mois, j'ai pas eu de chiffre plus récent. Alors si Nicole Pachignan était hier à Moscou, ce n'était pas a priori pour lui dire son soutien sur la guerre en Ukraine, c'était plutôt pour s'assurer qu'il peut toujours compter sur les Russes pour la suite du processus dans le Haut-Karabakh. Est-ce qu'ils peuvent faire sans les Russes, les Arméniens, Taline Termination, jusqu'où sont-ils dépendants d'eux?
Oh, ils sont totalement dépendants d'eux, on va pas tourner autour du pot, la situation est celle que j'ai décrite au départ. L'Arménie est dépendante de la Russie est sa seule alliée. Donc, il faut être clair, l'Arménie est aujourd'hui placée devant une question qui est d'ordre existentiel et elle n'a absolument pas le choix. Et son entière protection militaire, économique, etc. dépend actuellement de la Russie. D'ailleurs, elle a annoncé tambour battant qu'elle payait désormais sa facture de gaz en rouble. Vous savez combien c'est un enjeu de la politique économique russe face aux sanctions. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questions en régler. La visite de Pachignan qui a eu lieu hier et aujourd'hui est déployée sur 2 jours, ce qui est considérable. Elle était initialement organisée dans le cadre de la célébration officielle du 30e anniversaire des relations russo-ukrainiennes, mais le Kremlin a bien annoncé que dans le contexte actuel et dans le contexte de la guerre, cette visite avait une signification de plus grande importance qu'une simple commémoration protocolaire. Alors, évidemment, là, on n'est pas dans le cœur des conversations, mais un certain nombre de choses ont été annoncées. Et ce qu'on peut dire, en gros, c'est que les Russes, et en tout cas par la voix de Lavrov, vont avancer ou avancent leur projet de règlement de la question du Haut-Karabakh. On a d'ailleurs désigné un envoyé, certain Igor Khovayev, qui était l'ancien président russe du groupe de Minsk. Et donc, en fait, on se trouve devant une situation où il y a clairement, dans le contexte actuel, une concurrence entre le format russe proposé pour la paix et le format des Occidentaux, c'est-à-dire le groupe de Minsk, qui est désigné comme un processus mort.
Et on suivra ces discussions et les discussions aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Elles existent cas un cas, Taline Termination. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et je mentionne le dernier livre que vous venez de publier au PUF. C'est une biographie, celle de Gorbatchev. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.
Et voilà les enjeux. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.